Bonsoir. Comme tous les vendredis avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce vendredi 22 novembre 2019, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir situation sécuritaire au Nord Kivu, plus de 70 civils tués en l'espace de 10 jours dans le territoire de Beni par les EDF. Une situation qui occasionne le déplacement de plusieurs ménages vers des endroits supposés sécurisés. La société civile dénonce la multiplication de ces attaques malgré les opérations en cours menées par les FRDC. Dans notre deuxième thème, nous parlerons du projet de budget 2020 de la RDC, jugé recevable mercredi 20 novembre 2019 à l'Assemblée nationale. Les députés l'ont voté à l'issue des explications apportées par le Premier ministre à leurs préoccupations. Ce projet budgétaire de 10 milliards de dollars américains est envoyé pour enrichissement à la Commission économique et financière. Pour en parler, je reçois dans cette émission Jean-Marie Kamboa, directeur des publications au quotidien à l'avenir. Jean-Marie Kamboa, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous nos auditeurs.
J.R. Mukolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa. J.R. Mukolo, bonsoir.
Oui, bonsoir Kelly, écoutez, bonsoir à tous les auditeurs de la radio, au Capi, la radio de la paix.
Et Alain Samuel Kibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Alain Samuel Kibata, bonsoir.
Bonsoir Kelly, écoutez, bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Merci de nous suivre à Kinshasa sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'entrer dans les vifs de notre émission, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite et les médias en ligne ont analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Donna Madimba.
La recevabilité du projet du budget 2020 de la RDC par l'Assemblée nationale a dominé les médias de la RDC cette semaine. Déjà mardi, le journal Le Potentiel rappelait que ce budget se lève à 10 milliards de dollars américains. Le quotidien relevait que par rapport au budget de l'exercice 2019, le bond est spectaculaire, tout autant que le défi en termes de mobilisation de recettes. Avant de commenter, je cite, « Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba y croit, mais l'opinion publique paraît sceptique. » L'agence congolaise de presse ACP avait rappelé les axes de ce projet du budget 2020, selon le Premier ministre, notamment la pacification du pays, le renforcement de l'autorité de l'État, la promotion de l'État des droits, la dynamisation de la diplomatie, la lutte contre la corruption et les crimes économiques, l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et l'amélioration du climat des affaires. Il y avait aussi 19 mesures, selon Zoomeco.net, entre autres, la révision de la hausse du prix de carte de travail pour les étrangers, la connexion du ministère de l'Agriculture au système Sidonia World et l'approbation de la signature de l'avenant numéro 19 de la convention du 11 août 1969 avec Perenco. Mercredi, actualité.cd reprenait les propos du député national Muindo Nzangi qui critiquait sévèrement le projet de loi des finances 2020. L'élu de Butembo estimait selon le média en ligne que ce projet de budget chiffré à 10 milliards de dollars américains, soit un accroissement de 56,4% par rapport à celui de 2019, n'est pas réalisable. « Je ne sais pas comment, disait Muindo Nzangi, ce montant sera réalisé. Il s'agit ni plus ni moins d'une supercherie politique. Le Premier ministre est conscient que ce montant ne sera pas réalisé. Malheureusement pour la République, les 17% qui ont été prévus pour les investissements seront sacrifiés puisque le budget modique qui va être réalisé ne va servir que pour les rémunérations et le fonctionnement des institutions. Le Phare de son côté dénonçait ce type de scepticisme en titrant « Les destructeurs du Congo exigent des miracles à Ilunga, Ilunkamba. Aucun des investisseurs membres actifs des régimes de prédation ayant pillé le pays pendant plus de 22 ans, commentait le journal, n'a eu le courage d'assumer la responsabilité du gâchis social, financier, économique et industriel causé à la RDC, ni de se confesser publiquement en vue d'obtenir le pardon du peuple clochardisé. Tous ont zappé les questions du Premier ministre soulevées dans la dernière partie de son exposé sur la loi des finances 2020, a déploré le Phare. Concernant la recevabilité déclarée de ce projet de loi de finances 2020, l'agence congolaise de presse ACP écrivait « Dans ce projet de budget, le Premier ministre parle notamment de l'amélioration des conditions de vie du personnel de l'État dans son ensemble et au cœur de leurs préoccupations. C'est dans cette perspective qu'il a évoqué un accroissement de 16% de l'enveloppe globale des rémunérations du personnel de l'État. Au sujet du processus qui reste avant l'adoption finale du budget 2020, le FAR rappelle que après le vote de cette loi des finances, la Commission économique financière de l'Assemblée nationale a 10 jours, soit du 21 au 30 novembre 2019, pour l'amender. Le journal explique que c'est le 3 décembre prochain que l'Assemblée nationale va décider du projet réaménagé qui sortira de l'Ecofin avant sa transmission au Sénat pour seconde lecture. Le Sénat disposera aussi de 10 jours pour une seconde lecture avant d'envisager une commission mixte de deux chambres du Parlement complète alors actualité.cd.
Merci Dona Madimba pour ce journal de journaux. Jean-Marie Kiamboa, je rappelle que vous êtes directeur des publications au quotidien L'Avenir. Et y a-t-il un autre sujet qui a attiré votre attention cette semaine, hormis les deux que nous avons retenus pour notre tribune de ce soir?
Merci Madame pour la parole. À Kinshasa surtout, je suis attiré par la situation des pluies. Chaque fois qu'à Kinshasa nous connaissons une pluie, la vie devient intenable. Il y a des inondations, il y a des embouteillages, il y a des problèmes partout. S'il y a un adage qui dit qu'après la pluie, c'est le beau temps, à Kinshasa, au contraire, après la pluie, c'est le très mauvais temps, il y a des difficultés dans tous les sens. Cela relève de notre comportement, de notre agir en tant que Congolais. Nous avons construit anarchiquement dans tous nos quartiers. Nous avons empêché la circulation normale des eaux des pluies, à tel enseigne que ces eaux-là n'ont rien où il faut aller et comme conséquence, elles provoquent les inondations. Moi, je pense que la solution ne peut venir qu'à travers les démolitions. Donc, que le gouvernement soit un peu sévère là-dessus, afin de démolir toutes les constructions anarchiques, tous ceux qui ont construit sur les caniveaux, sur les conduites d'eau et consorts, toutes ces maisons, toutes ces bâtisses doivent être détruites afin que la ville puisse se reprendre, afin de permettre aux eaux qui viennent des bandales, qui viennent d'ailleurs, de pouvoir être dirigé dans les fleuves comme ce fut à l'époque. Parce que si on ne le fait pas, madame, la conséquence est que la situation va rester la même et rien ne pourra s'améliorer.
J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa. Quelle est l'actualité qui vous a marqué, vous, cette semaine?
Oui, moi, pratiquement, je vais abonder dans le même sens que Jean-Marie Kamboa, en parlant des conséquences des pluies, et pas à Kinshasa, mais dans l'arrière-pays, dans plusieurs provinces, dont par exemple la province du Nord, Ubangi, Mongala, Kwilu, beaucoup de provinces, et même Tchopo, où nous notons par exemple qu'il y a vraiment des inondations depuis pratiquement plusieurs semaines, et que déjà, vivent à la belle étoile, et les gens ont perdu leurs habitations, de nombreuses familles sont en tout cas pratiquement abandonné à leur tristesse. Mais ce qui m'a attiqué, c'est le fait que plusieurs semaines, plusieurs mois après que ces inondations aient commencé, au niveau du gouvernement central, apparemment, rien ne s'est fait jusqu'à maintenant. Notre gouvernement semble en tout cas regarder le sort de ses compatriotes de l'arrière-pays comme si c'était un gouvernement étranger. Pourtant, c'est un gouvernement congolais qui rassemble, qui récolte en fait les impôts et taxes pour prendre en charge tous les problèmes qui se posent dans la société. Et à ce moment-ci, nous nous rendons compte que ces populations-là ne sont pas assistées, et même les gouvernements provinciaux eux-mêmes sont démunis, n'ont pas de moyens. Vous allez même vous rendre compte, par exemple, que les députés provinciaux de plusieurs provinces ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Il y en a même dans les Nord-Ubangi, par exemple, qui se plaignent d'avoir pas touché leur traitement, leurs emoluments, ça fait 6 mois. Donc, nous en appelons au gouvernement.
Rapport à cette question, je crois qu'il y a une équipe gouvernementale qui doit être déjà sur le lieu.
Bon, cette équipe-là, je crois qu'elle est allée en retard aussi, après que ces inondations aient créé, provoqué beaucoup de dégâts. Moi, je me dis ceci, ce sont des phénomènes naturels, bien sûr, Mais nous devons avoir, par exemple, un fonds qui est déjà permanent en cas de catastrophe, en cas de situation d'urgence humanitaire, et que les gens puissent intervenir plutôt que d'attendre autant de semaines, autant de mois, que les dégâts soient déjà perceptibles sur terrain, que les gens arrivent à un niveau de souffrance assez élevé pour qu'on intervienne en dernier minute. Moi, j'estime que de façon là de gérer, le pays n'est pas en tout cas... C'est pas bon, nous devons en tout cas changer notre gestion.
Merci.
On dit gouverner, c'est prévoir. Nous ne devons pas être surpris par ce qui arrive en termes de catastrophes, en termes d'inondations. Nous devons déjà avoir un fonds d'urgence, un organisme comme la protection civile bien équipé, qui, chaque fois qu'il y a des difficultés comme ça, on intervient plutôt que d'attendre toujours que les organisations humanitaires internationales puissent nous venir.
Alain Samuel Chibata, vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Vous êtes directeur général des HOP Channel Radio. Quelle est l'actualité aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga?
Merci Kelly Kouté. Si mes prédécesseurs ont parlé de la pluie, moi je voudrais parler de la pénurie d'arrêt de première nécessité ici dans la province du Haut-Katanga. Il y a presque plusieurs mois que un sac de maïs qui s'est négocié à 15 000 francs, 20 000 francs, s'est négocié aujourd'hui malheureusement à 42 000 francs. Eh ben, je me demande qu'est-ce que nous Congolais faisons, parce que je sais que la RTC c'est un pays qui est interarable et nous sommes capables de nourrir beaucoup de nations, mais pendant que nous-mêmes, nous sommes incapables de nous nourrir nous-mêmes. Eh ben. Depuis le mois de juillet, juin-juillet, nous achetions le sac de farine de maïs, on appelle break, ici, à 16 000, 15 000 francs. Mais quand je vous parle aujourd'hui, madame Kelly Kouté, ici à Lubumbashi, le sac de maïs s'achète à 42 000 francs ou plus. Je me dis que la RDC a encore du pain sur la planche. Parce que si aujourd'hui la Zambie ferme ses frontières, vous verrez tous les Congolais agités, même les autorités. Sans honte, ils s'agissent vraiment parce que la Zambie, la petite nation qui n'a même pas la dimension de la RDC, ferme ses frontières et nous sommes vraiment agités. Pendant que même ici en RDC, nous avons une terre arable. Il y a les Indiens, il y a les Tanzaniens, il y a les Sud-Africains qui viennent cultiver chez nous en RDC, alors que nous, Congolais, nous cherchons à avoir de l'emploi dans des entreprises minières, des beaux bureaux, pendant que notre terre n'est pas cultivée et nous prenons de faim.
Elle
est alarmante, madame Kelly Kouté.
Alain Samuel Chibata.
Nous apprenons que le gouverneur et son gouvernement provincial est en train de faire un effort pour pallier à cette situation, madame Kelly.
Justement, c'est ce que j'allais dire. Le gouvernement provincial a annoncé qu'il avait trouvé une solution à cette situation des pénuries des maïs dans la province du Haut-Katanga. Vous venez de le dire vous-même qu'il y a un effort fourni du côté du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Premier thème de ce soir, nouvelle attaque la nuit de mardi à mercredi des EDF dans la ville de Beni et dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Le bilan provisoire de cette incursion est de 7 morts et 10 personnes kidnappées. Conséquence, paralysie des activités socio-économiques dans la ville de Beni, où la population a manifesté en érigeant des barricades sur certains axes pour protester contre ces nouvelles tueries. Hier jeudi, une journée ville morte spontanée a été observée dans la ville de Beni. Certains jeunes sont descendus dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol contre les tueries des civils par les EDF. De son côté, la société civile alerte sur l'infiltration des éléments EDF dans plusieurs agglomérations de la région. C'est Kombi Katondolo pour les détails.
Depuis tôt ce matin, les jeunes du groupe de pression de la Véranda Mutsanga ont barricadé les grandes artères de la ville de Beni en brûlant des pneus à des endroits chauds de la ville. Du fait de cette situation, boutiques, magasins, stations d'essence et même les écoles n'ont pas fonctionné. Selon Kizitobin Angi, président de la société civile Noyau de Beni, cette ville morte et spontanée est suivie par certains mototaximens et quelques opérateurs économiques pour dénoncer le massacre à répétition des civils par les ADF et exiger des phares d'essai de la population. police et de la MONUSCO, plus de protection des populations civiles dans cette région. De son côté, M. Aaron Ambereki, président de la plateforme de mototaximens en ville et territoire de Béni, appelle les motards au calme et à avoir confiance au FARDC. Signalons enfin que la police nationale congolaise est intervenue pour dégager les voies et encadrer certaines manifestations. Pour l'instant, aucun dégât matériel majeur n'a été signalé. Béni, Sekombi Katondolo, Radio Okapi.
Merci Sekombi Katondolo. J.A. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV. Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire à Béni? Une situation qui ne fait que se dégrader malgré les opérations lancées par les FARDC pour neutraliser les EDF.
Oui, je voudrais d'abord vraiment exprimer toute ma compassion à la population de l'Est du pays, et particulièrement dans les Nord Kivu, Sud Kivu, surtout nos frères et sœurs de Béni qui souffrent pratiquement depuis 5 ans des attaques des groupes armés présumés ADF, et avec la dernière attaque et les dernières tueries dernièrement, et ça fait vraiment en tout cas très très mal. Moi je me dis que le chef de l'État lui-même est passé par là. Il a même promis qu'il était prêt à mourir pour que la paix revienne dans cette région, et que nous avons nos forces armées qui ont même décrété un assaut final entre les groupes armés et les CDP. Moi, je me dis que la communication n'était pas bonne. On ne peut pas décréter un assaut final sur des forces qui ont encore pignon sur rue, qui sont suffisamment nombreuses, ils ont suffisamment une grande capacité de nuisance. On ne peut parler d'assaut final que quand vous avez affaire à des forces résiduelles que vous avez pratiquement déjà combattues et qui vous les traquez dans leur dernier retranchement. Tout ce qui se passe aujourd'hui à Béni et aux environs, ça démontre que les groupes armés, dont ADF Nalo, ont encore en tout cas une grande capacité de nuisance, et que tout ce qu'on a mené aujourd'hui comme combat, comme attaque pour pouvoir les anéantir, ne donne pas suffisamment de résultats sur le terrain. Et moi, je me dis que nous nous plaignons. Bon, j'ai même suivi, par exemple, le docteur Denis Mukwege qui en appelait à la communauté internationale pour pouvoir en tout cas s'impliquer, mettre en place une force internationale du genre Artemis, qui était pilotée par l'armée française, qui avait mis fin aux tueries dans les tueries dans les années 2023. Nous appelons. Et pourtant, nous avons notre propre armée nationale qui est dotée d'un budget, des militaires qui sont formés, je crois, pour pouvoir sécuriser le territoire national. Mais je n'arrive pas à m'expliquer qu'autant d'années après qu'on ait lancé ces attaques, nous n'arrivons toujours pas, en tout cas, à mettre hors d'état les nez tous ces armées qui écument l'est du pays, qui endeuillent en tout cas les populations civiles depuis pratiquement plusieurs années.
Jean-Marie Camboy, directeur des publications au quotidien L'Avenir, comment expliquer qu'on n'arrive toujours pas à neutraliser ces EDF? Il y a quelque temps, on nous a dit que la capacité de nuisance de ces rebelles s'était vraiment amoindrie. Comment on expliquer qu'on n'arrive pas à neutraliser ces rebelles, hein?
Madame, je vais d'abord commencer par exprimer ma compassion à l'endroit des confrères concerts congolais qui ne font que mourir du jour au lendemain suite à cette barbarie imposée par les terroristes de l'ADEF. Tout ce qui est arrivé, j'ai aussi suivi les ministres de l'Intérieur ce matin qui intervenaient sur une radio périphérique disant que tout ce qui intervient aujourd'hui, ce sont pratiquement les dernières actions des terroristes qui ont déjà été combattus. Au lieu tout simplement d'exposer les faits, moi je pense que nous devons aller directement vers quelques solutions qui peuvent être mises en place par notre gouvernement afin de mettre définitivement un terme à cette situation.
Est-ce que la solution que propose le docteur Denis Mukwege, qui appelle à l'envoi des troupes d'élite dans les cadres d'une opération type Artemis, pourrait être une solution pour finalement mettre fin à ce phénomène EDF?
Dans les cas d'espèce, madame, on ne peut rejeter aucune solution. Vous vous souvenez que lorsque le chef de l'État était dans un sommet de la SADC, il avait proposé la création d'une coalition d'une coalition mondiale contre les terroristes. Et il a repris la même idée pratiquement dans les forums sur la paix qui a eu lieu à Paris, pour demander à ce que les États de la région ou les États se mettent ensemble afin de combattre le terrorisme. Malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté sur terrain? On constate que les voisins, les Rwanda et l'Ouganda, ont déjà une expérience fâcheuse. Ils s'étaient permis de s'affronter dans notre pays. Et l'opinion congolaise n'est pas prête à accepter une telle expérience. C'est la raison pour laquelle le focus est fait sur les FRDC qui ont les vents en poupe, qui se comportent très bien jusque-là et qui sont en train d'aller jusqu'à exterminer cette force. Ce que nous constatons maintenant, c'est quoi? Les rebelles de l'ADF, les confrères Magogolo vient de le dire, on a trop communiqué. Lorsqu'on a communiqué, et aussi ont pris des dispositions. Il y en a qui se sont infiltrés au niveau de la population à telle enseigne qu'ils se comportent comme si c'était la population pendant qu'ils sont des terroristes. Donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est d'accompagner les FRDC, leur donner les moyens
qui ont récupéré d'ailleurs beaucoup de positions des EDF.
Voilà. Il faut tout simplement les accompagner, leur donner les moyens conséquents afin de. Je pense que dans un bref délai, nous mettrons un terme à ces terroristes qui n'ont fait que semer la mort et la désolation. Mais au-delà de cette solution, notamment la MONUSCO préconise aussi les dialogues. Mais pour dialoguer, il faut avoir un interlocuteur. Mais il s'avère que ces terroristes-là n'ont pas d'interlocuteur et il n'y a pas moyen de pouvoir prendre langue avec eux, ce qui est vraiment une difficulté, ce qui est vraiment un problème. Donc, nous insistons beaucoup plus par rapport à la collaboration entre population et FRDC.
Mais la population collabore connaît. Avec les FRDC, puisque la société civile se plaint du fait que la population alerte sur des éventuelles attaques des EDF, mais malheureusement aucun suivi de la part des FRDC pour vérifier si c'est vrai ou faux ces alertes lancées par la population.
Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre de dire qu'il n'y a pas de suivi au niveau des FRDC, d'autant plus que les FRDC ne vivent que de cette collaboration. Ils se sont rendus compte que pour réussir cette tâche si difficile dans un terrain si compliqué, ils doivent obligatoirement se faire accompagner de la population. Et la population demeure l'interlocuteur incontournable dans cette bataille. Et que la population ait ses apaisements, une fois que les FRDC ont enregistré les doléances, elles s'organisent à leur niveau afin de lancer l'assaut. Parce que il y a un problème. Vous devez bien sûr être informé, mais vous devez aussi vérifier l'information qui vous a été donnée. Pendant que vous voulez vérifier l'information, comme c'est une guerre asymétrique qui mène les bandits et les terroristes, et pendant que vous organisez et attaquent sur la population pour vous montrer qu'ils sont encore là. Donc que la population ne se fatigue pas à pouvoir informer les FRDC qui ont les moyens, qui sont déterminés à pouvoir aller jusqu'au bout de cette aventure.
Alain Samuel Tshibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, plus de 70 civils tués en l'espace des 10 jours, et ce, malgré les opérations de grande envergure menées par les FRDC pour neutraliser les EDF. C'est un message que ces rebelles lancent aux FRDC et au gouvernement congolais.
Écoutez, je voudrais dire ici que la guerre est une autre forme de faire la politique. Et les EDF sont au Congo il y a plusieurs années. Je sais que la RDC regorge des richesses naturelles qui font l'objet de toutes les convoitises des États voisins. Et le cycle des violences est entretenu par la présence persistante des groupes armés qui profitent de la vacance du pouvoir et du vide sécuritaire qui caractérise l'Est de la RDC. Il y a deux mois, si je me souviens, le chef de l'État a renforcé le nombre des militaires à l'Est de la RDC, et puis ils ont érigé leur quartier général à Boïkéné, et c'est au cœur même, au centre de la ville, où sont situés les états-majors des commandements, que ces menaces sont perpétrées par ces malfrats. Et c'est dangereux. On se demande pour qui les EDF travaillent, quelles sont leurs vraies motivations. Et il paraît clair que, comme les collègues l'ont dit, au sein des EDF, même au sein de la population, il y a nos frères congolais qui se sont infiltrés. Et il y a des gens qui les font pour n'est-ce pas, enquiquiner le gouvernement congolais. Ils ont pour mission de jeter de l'opprobre sur l'État congolais, saboter et ridiculiser le gouvernement de la RDC. Et nous devons ici, Madame Kelly-Kouté, retenir que cette guerre n'est pas celle qui s'est faite entre l'armée et une autre armée. C'est une guerre qui, plutôt qui est entre l'armée et les terroristes. Et la guerre n'est pas classique, elle est plutôt atypique. Et pour ce faire, et par moments moi-même, je fistule l'attitude de, ou l'indifférence de la fameuse, excusez-moi les mots, la fameuse MONUSCO. Pourquoi je fistule l'attitude de la MONUSCO? La MONUSCO a pour mission, comme nous le savons, la protection des civils et leurs biens. Alors que l'armée est au front, où est la MONUSCO? Que fait la MONUSCO? Qui sont les civils que la MONUSCO est en train de protéger? Deuxièmement, écoutez, nos politiciens ou les hommes politiques, au lieu de se mettre ensemble pour parler le même langage, vous verrez qu'ils sont en train, ils sont les premiers à faire les déclarations qui tendent à saboter l'armée congolaise, à décourager, à dénigrer les efforts que font, n'est-ce pas, les militaires congolais. Et tout cela pour leurs intérêts égoïstes. Et je me dis, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Comme notre confrère Cambois a proposé certains types de solutions, si vous le permettez, moi, à la place, je pourrais dire ceci. Nous devons d'abord mettre l'armée congolaise à l'avant-plan. Ça, c'est la solution que j'appelle la solution militaire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lorsque vous dites qu'il faut mettre l'armée congolaise en avant-plan, ça veut dire quoi concrètement?
Et concrètement, je voudrais dire qu'il ne faudra pas que l'armée congolaise soit victime de l'infiltration de personnes de mauvaise volonté. Parce qu'il y a des gens, il y a des complices, même au niveau, au sommet du commandement de la force républicaine, il peut y avoir les intrus. Donc, je voudrais, à mon niveau, que les Congolais eux-mêmes, donc je vais parler des commandants, les responsables congolais eux-mêmes, qui sont capables de décider à leur niveau. Ça veut dire que nous ne puissions pas faire confiance trop à des. Parce que vous savez, dernièrement, on nous a dit qu'il y aurait peut-être les pays voisins de la sous-région qui doivent aider la RDC à collaborer, le renseignement. Moi, je me dis, est-ce que vous trouvez que le Rwanda qui tire profit de cette guerre à l'Est peut faire du bon boulot à la RDC? Loin de là, d'ailleurs, très loin de là. Et donc, je reviens à ce que je disais. La deuxième solution, Mme Kelly-Kouté, je proposerais qu'il y ait vraiment une solution sociologique. Ça veut dire, il y a nos frères congolais, comme je l'ai dit, qui sont infiltrés, et je les appelle les brebis galeuses qui doivent revenir à la maison. Et troisième solution, c'est la solution diplomatique. Le chef de l'État doit demander à ses homologues, ses voisins, l'Ouganda et le Rwanda, de retirer leurs hommes, point barre. Parce que le Congo doit assurer la souveraineté, sa propre souveraineté.
Merci.
Est-ce que vous dites que Tshisekedi et Kagame et les autres ne collaborent pas? Ils collaborent, ils se voient. Qu'est-ce qui peut manquer au président Tshisekedi de demander à ses homologues de retirer leurs hommes à l'est de la RDC? Pour terminer,
rapidement, alors,
Madame Kelly-Kouté, permettez, il faudra aussi éviter de trop médiatiser les opérations militaires. Il y a des choses qui doivent rester vraiment secrètes. Parfois, vous allez trouver que les opérations militaires sont beaucoup médiatisées. Et parfois, le fait de trop médiatiser ces opérations met à la portée, même les militaires congolais à la portée de l'ennemi. Et parfois, vous allez trouver que plus les opérations sont médiatisées, plus il y a des critiques négatives qui peuvent, n'est-ce pas, décourager les militaires congolais. Voilà un peu, brièvement, Madame Kelly-Kouté, les petites propositions que j'allais faire.
Merci à la Samuel Tshibata, Jean-Marie Kiambois. La société civile de ce coin se plaint du fait que la population civile n'est pas protégée et qu'il n'y a personne, aucun élément ni de la police ni de l'armée pour sécuriser les localités jadis occupées par les EDF et récupérées par les FRDC. C'est un problème.
Oui, c'est un problème. Je voudrais rassurer la société civile que dans les budgets qui est en examen au Parlement, il est prévu des dispositifs, il est prévu des fonds, il est prévu un accompagnement afin de permettre aux FRDC de se retrouver partout pour sécuriser nos frontières qui sont réputées d'être poreuses. Mais je voudrais aussi dire un petit mot par rapport à la MONUSCO pour informer l'ami que dans la traque de ces terroristes, la MONUSCO est là présente à travers son appui logistique. Il est vrai que le premier rôle est joué par nos FRDC, mais ces FRDC ont aussi les loisirs de décider qui peuvent ou ne pas les accompagner. Mais pour l'instant, la MONUSCO est là avec son appui logistique. Sans oublier que son mandat a toujours consisté en la protection des populations congolaises. Parlant par exemple de la médiatisation, vous n'oubliez pas que l'armée c'est la grande muette. Mais l'armée dans notre pays avait quand même décidé de pouvoir communiquer. Mais en communiquant, je pense qu'on doit toujours trouver quoi communiquer et quoi ne pas communiquer pour ne pas livrer toute sa stratégie aux ennemis de la paix.
J.R. Mukolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant depuis Kinshasa, une certaine opinion pense qu'il faut associer peut-être les Mai Mai des groupes armés congolais qui sont dans ce coin à ces opérations pour combattre les EDF. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que c'est pas une bonne solution. Vous vous rappelez par exemple Moussa Laurent-Désiré Kabila face à l'agression étrangère perpétrée par les pays voisins qui avaient instrumentalisé certains Congolais avaient eu recours aussi au Mai Mai. Ça a eu comme conséquence quoi, la prolifération des groupes armés dans l'est du pays. Donc si on doit faire appel au Mai Mai, aux groupes armés irréguliers, ça veut dire que nous n'avons pas d'armée. Ça démontre que notre armée est incapable de pouvoir assurer la sécurité du territoire national. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Ce qui doit être fait, il faut essayer un peu de trier dans nos forces armées des bons éléments bien formés. Et s'il faut même recourir peut-être aux éléments de l'ex-phase du maréchal Mobutu qui sont encore fort actifs pour les récupérer, pour pouvoir se battre. On ne peut pas gagner une guerre seulement en ayant la population derrière soi ou en ayant un budget conséquent. Pour gagner une guerre, il va falloir qu'on ait des militaires bien formés et motivés et qui savent pourquoi ils se battent. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas de patriotes au sein de notre armée. Des gens sont, je sais pas, démotivés ou fatigués après autant d'années de guerre. Bon, il y en a beaucoup qui pointent en tout cas les doigts à la MONUSCO. Vous savez, la MONUSCO, c'est composé des ressortissants de pays étrangers. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un citoyen d'un pays étranger acceptera de verser son sang là où il se rend compte que les propres compatriotes, les propres citoyens de ces pays-là, apparemment, baissent les bras et que ne se battent pas suffisamment pour protéger leur propre pays? Donc moi je me dis que c'est pas ça la solution. Même merci. Ceux qui disent qu'il faut associer les pays voisins, quelqu'un a dit que la sécurité des uns font l'insécurité des autres. Pour que les pays voisins puissent être en sécurité, des pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda, ils font quoi? Ils favorisent l'insécurité dans notre pays. Et ils profitent aussi de cette insécurité, de cette économie de guerre, pour pouvoir aussi profiter à l'exploitation de nos matières premières. Merci. Vous allez vous rendre compte par exemple que nous ici, nous un pays qui regorge suffisamment de coltan, mais ce coltan est exporté à partir des pays voisins.
Donc
nous ne devons pas en tout cas compter sur nos pays voisins. Réformons notre armée, prenons conscience que c'est notre propre pays, nous devons en tout cas nous battre pour le défendre. Et que l'étranger ne viendra pas en tout cas verser son sang pour défendre notre propre pays.
Deuxième et dernier terme de ce soir, l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet du budget 2020 vendredi dernier et l'a envoyé en commission ECOFIN pour un examen approfondi pendant 10 jours. Au cours de cette plénière, le Premier ministre a tenté dans sa réplique de rencontrer les différentes préoccupations des députés nationaux au sujet de l'insécurité dans l'Est par exemple. Sylvestre Ilunga assure que les rétablissements de l'autorité dans le Nord Kivu, notamment, et parmi les priorités de son gouvernement. Et concernant la gratuité, il a indiqué que le gouvernement a pris des mesures telles que le réajustement des salaires des enseignants à tous les niveaux et la mécanisation des enseignants non payés. On écoute Sylvestre Ilunga qui s'exprime également sur les inondations dans cet extrait choisi par Alain Irunga.
À cette situation, le gouvernement a envisagé une réponse à deux volets. Premièrement, une descente conjointe sur terrain est organisée dès ce jeudi 21 novembre 2019 avec les partenaires humanitaires pour une évaluation approfondie accompagnée d'une assistance en urgence. Cette assistance d'urgence à apporter aux populations affectées sera composée des bâches, de vivres, des moustiquaires imprégnés et médicaments. Par ailleurs, d'après l'Agence nationale de météorologie, des précipitations abondantes sont attendues dans les mois qui viennent, ce qui justifie la préparation d'un plan de réponse globale pour s'attaquer à cette situation dans le cadre de relèvement des personnes affectées et de résilience. Ce plan prendra en compte la lutte contre l'insécurité alimentaire, les maladies endémiques et hydriques.
Alain Samuel Otibat, directeur général de Hope Channel Radio, émettant depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, 10 milliards de dollars américains. C'est le montant du projet de budget 2020 jugé recevable à l'Assemblée nationale. Et parmi les priorités et à la gratuité de l'enseignement, la santé, la caisse de péréquation et la construction du port en eau profonde des Bananas. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, Alain Samuel Otibat?
Merci Kalikoute. Je pense que à ce niveau, je dois en devant féliciter le gouvernement Ilunga Ilunkamba pour ce mérite, parce que vous savez, les budgets ont connu la hausse de 56,4%. C'est vraiment encouragé. Et ce budget est travaillé, je le dis, il est travaillé sur base de l'alternance qui fait appel à la volonté du changement dans le désir de satisfaire les besoins du peuple congolais. Et le budget même, il a aussi pour objectif de rendre concrète les promesses de campagne du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, quand il passait partout, il disait, j'ai passé président de la RDC, je veux vraiment améliorer le social de la RDC. Question, j'ai une petite question que je me pose. Est-ce que le gouvernement Ilunga Ilunkamba a mis en place les bonnes pratiques, n'est-ce pas, une bonne politique aussi qui peut mobiliser les ressources? Parce que pour atteindre les 10 milliards, il faudra lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes, la corruption, la concussion, la délinquance fiscale et j'en passe. Est-ce que ils ont passé, n'est-ce pas, à toute cette stratégie? Je me demande. Le gouvernement s'est mis la corde au cou, Madame Thierry Couté. Il faudra relever tous ces défis, parce que nous-mêmes, il faudra que nous puissions nous-mêmes produire. La RDC doit d'abord produire, avant de tendre la main à quelqu'un d'autre. Avant de penser à tout ce dont on a besoin, nous devons nous-mêmes produire. Quand je parle de la production, je vois, comme je le disais en liminaire, nous avons une terre vraiment riche. Une terre arable qui peut nourrir tout le monde entier, mais est-ce que nous pouvons produire nous-mêmes pour avoir les fonds en nous-mêmes? Ce sont un peu le petit point que je voudrais relever, Madame Kelly Kouté, mais tout en élevant également le point faible de ce budget. À mon humble avis, ce budget n'est pas favorable à l'organisation des élections locales. Vraiment, nous allons continuer à vivre la situation de tension entre le gouvernement central et la base. Parce que là, je ne vois pas vraiment que ce budget prévoit un montant consistant pour l'organisation des élections locales.
Merci.
Bref, nous saluons la croissance du budget, mais le gouvernement Ilunkamba doit penser vraiment à la matérialisation.
Jean-Marie Nkamboa, directeur des publications au quotidien à l'avenir, ce montant est-il suffisant pour couvrir les priorités du gouvernement? On a suivi certains députés de l'opposition dire que c'était une supercherie politique et que ce budget ne pourra pas être réalisable.
Madame, le montant n'est pas tout à fait suffisant, mais c'est un début, c'est un départ. Ne négligeons pas cet aspect des choses, parce que nous avons une nouvelle dynamique dans notre pays, impulsée par les élections du mois de décembre 2018. En lieu et place de trop cogiter, moi je pense qu'il faut d'abord constater que dans notre pays, les budgets qu'on a toujours eu n'ont pas toujours été bien exécutés, bien appliqués. Et on a donné l'impression aux gens de faire croire que le budget n'est fait que pour la consommation des institutions. Donc nous voudrions vraiment que ça soit un budget.
On a toujours fait croire aux gens, ou c'est ça même la réalité?
Le souhait est que ce soit vraiment un budget où les besoins de la population sont repris là-dedans, et que la population elle-même aussi constate que son vécu quotidien a essentiellement changé. Nous avons toujours eu aussi dans notre pays une assiette fiscale très réduite. Donc le souhait, à travers les mesures qui seront proposées dans les budgets, c'est de permettre à ce que l'assiette fiscale soit élargie. Pourquoi ne pas toucher aussi les l'économie informelle afin qu'elle puisse contribuer au développement du pays. Donc le budget n'est pas seulement une affaire de quelques individus, mais ça doit être une affaire de tout le monde, c'est une contribution de tout le monde aussi en luttant contre la corruption et d'autres antivaleurs qui ont été décriés. Donc nous mettrons aussi dans le cadre de ce budget un accent particulier sur les discussions avec les bailleurs de fonds. Il y a déjà FMI qui a manifesté son intention de conclure avec la RDC. Nous espérons que d'autres bailleurs de fonds vont se présenter, étant donné que le chef de l'État les a rassurés de sa volonté de pouvoir impulser beaucoup de réformes dans notre pays afin que la situation puisse changer. Parce que la RDC, dans l'État actuel, n'aura d'issue ou des saluts qu'à travers des réformes. Parce que s'il n'y a pas des réformes, même tout ce qui est prévu dans les budgets ne pourra pas se réaliser.
J.R. Moukolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne qui émet depuis Kinshasa. Votre lecture de ce projet de budget 2020, un budget qui s'élève à 10 milliards de dollars américains.
On a un budget beaucoup plus important que le budget précédent, mais une question est en fait de pouvoir aligner 10 milliards comme prévision budgétaire et une autre est en pouvoir mobiliser tous ces fonds-là. Et pour mobiliser tous ces fonds-là, je crois qu'il va falloir entamer des réformes comme le Premier ministre l'a annoncé, particulièrement par exemple combattre les couloirs des recettes de l'État et contre la corruption, parce qu'on nous a appris par Luzo Lobambi, qui était l'ancien conseiller spécial de l'ancien chef de l'État en charge de la corruption, qui avait 10 milliards de dollars qui échappaient en tout cas au trésor public et qui rentraient dans les poches des particuliers. Voilà qu'ils font en tout cas des réformes sur le climat des affaires, et même combattre l'insécurité. Parce que pour avoir un budget consistant, il faut aussi que les investisseurs viennent créer des entreprises et créer de l'emploi. Là, on va augmenter en tout cas l'assiette fiscale. Mais tant qu'on n'aura pas mené ces réformes-là à fond, je doute fort qu'on puisse en tout cas avoir suffisamment d'argent pour mobiliser 10 milliards de dollars dans notre pays qui est aussi un peu des misères comparativement aux petits pays de l'Afrique même qui n'ont même pas énormément de ressources naturelles comme nous, mais qui ont en tout cas des budgets assez conséquents.
Alain Samuel Tshibata a révélé un point quand même assez important, c'est l'organisation des élections locales. Est-ce qu'il faut oublier?
Bon, nous notons par exemple que les fonds prévus dans ces budgets-là sont des lois en tout cas insuffisants par rapport au budget qu'on a demandé pour les élections locales, municipales et urbaines qui s'élèveraient, semble-t-il, à quelques 400 millions de dollars par exemple. Bon, j'ai comme l'impression que les acteurs qui sont aux affaires n'ont pas en tout cas la volonté pour organiser ces élections. Quand vous voyez les deux partenaires de la coalition gouvernementale, FCC Cash, déjà les FCC par exemple est en train de mettre les capes sur 2023. Et on réplique, on a vu les Cash aussi, à travers par exemple Laurent Batumona, il a acheté un label 2023, Fatih toujours. Ça veut dire qu'ils sont déjà qui s'inscrivent, qui se battent déjà pour garder les pouvoirs en 2023, et que pratiquement les élections locales et municipales urbaines semblent en tout cas être décalées de leurs soucis. Autre chose aussi,
il faudra conclure, J.R. Moukolo.
Oui, en conclusion, moi je me dis, ces grands pays dotés par la nature d'énormes ressources naturelles a la capacité d'avoir un budget même de 50, quoi, 100 milliards de dollars. C'est question seulement de pouvoir avoir pouvoir des gens qui ont la volonté de changer les choses, qui ont la volonté de faire en sorte que ce qui appartient à l'État, ce qui doit rentrer dans les caisses de l'État, doit rentrer dans les caisses de l'État. Et que même
si mobilisés,
par exemple, ils font faire en sorte que...
On a un souci avec votre ligne, J.R. Moukolo. Jean-Marie Nkamboa.
Je voudrais, en quelques mots, rassurer les uns et les autres que le gouvernement a manifesté sa volonté d'organiser les élections locales et consorts. Il est vrai que l'argent est prévu dans le budget de l'État. N'oublions pas aussi que le budget, ce sont des prévisions. Donc, c'est de l'argent qu'il faut chercher. Ici, il pourrait que, toutes choses restant égales par ailleurs, que le gouvernement trouve assez d'argent afin de pouvoir organiser ces élections qui seront qui permettront à ce que la démocratie soit vécue au niveau de la base. Donc nous, nous demeurons optimistes, espérant que le gouvernement va réaliser sa parole.
Merci Jean-Marie Kamouat. La tribune de la presse, c'est fini pour ce soir. Merci à Douna Madimba qui a réalisé cette émission. Willem Lungamba était à la mise en onde de la présentation qu'elle écoutait. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.